Bonjour et merci d'être aussi nombreux à écouter le grand face-à-face chaque samedi avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Ça nous oblige et ça réchauffe le cœur. Dans un instant, retour sur les temps forts de la semaine avec le duel. Et puis en débat ce samedi, le régime diversitaire. L'expression peut surprendre. Elle désigne ce que certains décrivent comme une révolution racialiste. Une révolution en cours et qui s'expliquerait par le fait que l'homme blanc devrait avouer ses crimes et se regarder dans un miroir pour se savoir, se reconnaître coupable. Je cite, l'homme blanc devrait se faire rampant après avoir mis le monde à genoux, fermer les guillemets. Pour paraphraser Marx, un spectre hante les sociétés occidentales, celui du racialisme, symptôme des statuts déboulonnés, une nouvelle manière de regarder l'histoire et la volonté de diffuser un sentiment de culpabilité chez ceux qui ont la peau blanche. C'est ce qu'on peut lire dans un essai qui vient de paraître, La révolution racialiste et autres virus idéologiques, celui qui le signe est sociologue, essayiste. Il écrit régulièrement dans le Figaro. Il vient du Canada. Il est de passage à Paris et il sera donc dans le studio du Grand Face à Face dans une vingtaine de minutes. Mathieu Bock-Côté est l'invité de France Inter aujourd'hui.
France Inter, le Grand Face à Face. Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Vous pensez à la mi-mai? Non. Je vous pose la question chaque semaine, mais vous avez du mal à voir la lumière au bout du tunnel. Je ne sais pas pourquoi d'autres sont dans la même situation que vous, mais pour de tout autre raison.
Sans union de la gauche, il n'y a pas de gauche et ni d'écologiste au second tour de l'élection présidentielle. Chacun de ces courants politiques, écologistes, insoumis, communistes, socialistes, dit il y a urgence climatique et urgence sociale. Bah, s'il y a urgence, il faut donc un gouvernement de justice sociale et transition écologique en 2022. Et la condition pour qu'il y ait un gouvernement de justice sociale et transition écologique, eh bien, c'est l'unité.
La condition, c'est l'unité. Vous avez reconnu la voix de Benoît Hamon qui était ce matin sur France Inter. Les dirigeants, les représentants de la gauche se réunissaient ce matin à Paris à l'initiative de l'écologiste Yannick Jadot. Vous l'avez entendu dans nos journaux. Est-ce que ce sera la première étape d'un rapprochement qu'on a du mal encore à apercevoir, mais qui peut être possible avant 2022, Gilles?
Je dirais d'abord enfin. C'est quand même incroyable qu'il ait fallu attendre si longtemps pour que les différents responsables de la gauche puissent simplement se mettre autour d'une table pour se rencontrer et pour discuter, ce qui en soi est un symptôme des difficultés de la gauche. C'est d'autant plus étonnant si on regarde avec lucidité la situation dans laquelle se trouve la gauche, dont je crois qu'on peut dire qu'elle est dans une situation critique. Quand on regarde ce qu'est l'agenda politique, c'est-à-dire les débats autour desquels se noue la conversation publique, depuis quand n'y a-t-il pas eu un thème qui a été porté par la gauche? Quand on regarde le positionnement idéologique des Français, on voit à quel point la gauche aujourd'hui est minoritaire. Et quand on regarde les intentions de vote de l'élection présidentielle, on voit que le risque n'est pas seulement celui de l'élimination, qui serait quand même la troisième élimination sur les cinq élections présidentielles du XXIe siècle.
Oui.
Le risque n'est pas seulement l'élimination, le risque c'est la marginalisation. Et pour beaucoup d'électeurs, un sentiment d'exclusion face à ce qu'est la grande échéance démocratique du pays. Donc, quand Benoît Hamon dit « il y a urgence », je crois qu'il y a urgence parce que la situation est critique, et que donc cette réunion tombe à point.
Natacha Polony.
Je pense que le problème de cette réunion, c'est que chacun y vient avec des arrière-pensées et des objectifs différents. Et que la situation n'est pas du tout la même quand on est Jean-Luc Mélenchon et qu'on a de toute façon préempté une place sur l'échiquier politique qui interdit en fait toute union de la gauche et qu'on ne, donc, n'envoie un représentant dans cette réunion que pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'hostilité, mais en tout cas certainement pas un candidat unique. Et ce n'est pas la même chose, par exemple, que la position d'un Yannick Jadot qui organise cette réunion pour éviter une primaire des Verts. Ce n'est pas la même chose qu'Anne Hidalgo qui, pour le coup, a davantage intérêt à une véritable union, mais derrière elle, et elle, son enjeu, c'est d'éviter que l'union ne se fasse derrière les écologistes. Donc on voit que, de toute façon, c'est très mal parti.
C'est très mal parti.
On a interviewé cette semaine dans Marianne Fabien Roussel. Michel, qui dit...
Le dirigeant du Parti communiste français est candidat à l'élection présidentielle.
Exactement, et qui a d'ores et déjà, en effet, déclaré sa candidature, tout simplement parce que il veut se placer dans le cadre d'une réflexion sur les concepts, les idées, et il a cette phrase donc qui est de dire la gauche ne souffre pas de la division, elle souffre de sa faiblesse, la faiblesse sur les idées, sur les... Gilles disait à l'instant qu'en effet la gauche n'avait pas porté ces derniers temps de véritables débats à part sur l'écologie, mais qui est devenue en fait la valeur refuge de ceux qui ont du mal à penser le monde tel qu'il est, et c'est aussi valable pour la droite d'ailleurs, c'est-à-dire que ça, on l'a vu lors des municipales, l'écologie n'est pensée que comme un pis-aller, mais rarement, hélas, en articulation avec le reste des problèmes. Et puis, surtout, la question est celle de savoir si les fractures qui se nouent à gauche, enfin, ou qui se creusent, pardon, à gauche, oui, sont des fractures irréconciliables, ce que moi je ne crois pas, mais que, selon la phrase de Manuel Valls, ou surtout si elles sont mal identifiées. C'est-à-dire qu'on a tendance à ne parler que de la fracture sur la laïcité. Il y a d'autres fractures, et le problème, c'est que jusqu'à présent, elles ne sont jamais justement mise en avant honnêtement et pensée. Il y a la question justement sur les questions d'écologie, il y a la question du nucléaire, la question... Je pensais d'abord en écologie à la question du nucléaire qui va se poser comme une question majeure, mais il y a en effet la question du libre-échange, de la renégociation des traités européens, toutes ces choses-là, tant qu'elles ne seront pas mises sur la table posément et calmement, il ne pourra pas y avoir de courant de gauche qui porte un élan et une dynamique, et c'est cela qui est inquiétant.
Gilles.
Alors, je crois que Natacha Polony a raison quand elle dit que chacun y vient avec ses objectifs et ses arrière-pensées, mais c'est toujours comme ça dans une réunion de ce type. On voit les difficultés et d'une certaine manière les différentes impasses possibles. Il y a une première impasse qui est ce qu'on pourrait appeler l'impasse darwinienne dans cette situation, c'est-à-dire chacun est candidat, et Jean-Luc Mélenchon, et Fabien Roussel, vous l'avez évoqué, et Yannick Jadot, et Anne Hidalgo. Bon, ça, tout le monde est candidat et les électeurs reconnaîtront les siens. Je doute que ça aboutisse. Mais il y a une deuxième impasse qu'on entend dans le débat, ce qu'on pourrait appeler l'impasse gramscienne. C'est le discours qui est juste, hein, qui dit qu'il faudrait que la gauche reconquiert l'hégémonie culturelle. C'est juste, mais tout ça prend du temps. Là, maintenant, on est à un an de l'élection présidentielle. Et puis, il y a la troisième chose qu'on a entendue, ce que disait François Hollande, c'est l'essentiel, ça serait de reconquérir une force politique. C'est la force qui fait l'union, et c'est pas l'union qui fait la force.
Explication ?
Ce n'est pas faux. C'est-à-dire, quand vous avez une force politique qui est puissante, c'est ce qu'on appelle une force centripète. C'est-à-dire, c'est autour d'elle que viennent s'agréger les autres. C'est ce qui s'est passé pour la gauche les 30 dernières années. Mais, manifestement, c'est pas la situation actuelle. Donc, toutes ces orientations-là, elles sont peut-être justes, mais elles ne donnent pas elles ne donnent pas de débouchés. Et donc, la question aujourd'hui, c'est de savoir rassemblement. Les électeurs, j'ai été très frappé de l'enquête qui a été publiée hier par Le Figaro, les électeurs de gauche, 80% d'entre eux souhaitent ce rassemblement. Et ça va être une pression qui va s'exercer sur l'ensemble des dirigeants qui sont là. Reste à savoir après quel rassemblement, quel périmètre de ce rassemblement. Est-ce qu'on privilégie la plus grande surface possible, c'est-à-dire le rassemblement de Jean-Luc Mélenchon à Yannick Jadot, ou est-ce qu'on privilégie au contraire la plus forte densité, la plus forte cohérence possible, c'est-à-dire non pas un rassemblement, mais des rassemblements. D'un côté, peut-être le Parti communiste et Jean-Luc Mélenchon, de l'autre, les socialistes et les écologistes. L'essentiel, c'est déjà de discuter pour identifier les fractures qu'évoquait Natacha Polony.
Et la réunion se tient toujours en ce moment. Un complément, Natacha, avant de passer au prochain sujet ?
Un complément d'un mot, parce que ça anticipe peut-être une part de notre débat avec Mathieu Bock-Côté, mais je crois que la gauche souffre aussi de cette tendance, d'une part, de ces courants, au moralisme, et donc à l'idée qu'il faudrait juger d'un point de vue moral et être le plus vertueux, et que seul le plus vertueux est véritablement de gauche. Tant que l'on définira la gauche sous cette aune-là, et non plus dans une analyse des rapports de force, des rapports sociaux et économiques, et dans une capacité à dire le réel de la façon la plus honnête qui soit, sans avoir peur d'être immédiatement accusé d'avoir dérapé, je pense que la gauche aura beaucoup de mal, et je crois que c'est un manque dans le débat politique actuel qui est criant.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Je prends acte d'une forte orientation pour le maintien de ces élections en juin, ce qui rejoint la position de principe du gouvernement. Un décret en Conseil des ministres interviendra dès la semaine prochaine pour fixer les élections au 20 et 27 juin au lieu des 13 et 20 juin.
C'était le Premier ministre Jean Castex devant l'Assemblée nationale mardi dernier et il disait donc que les élections régionales et départementales auraient bien lieu au mois de juin, mais que le vote serait décalé d'une semaine puisque les votes se dérouleront finalement les 20 et 27 juin. Je trahis un secret de fabrication du grand face-à-face quand nous discutions des sujets à aborder au cours du duel. Vous avez parlé des régionales, Natacha et Gilles. L'un d'entre vous a dit « Personne n'en a rien à faire, on va donc en parler ». Et l'autre a dit « Chouette, on va voter, parlons des régionales ». Vous en arrivez donc à la même conclusion. Je laisse à nos amis auditeurs le soin de deviner qui a prononcé chacune de ces phrases. Mais Natacha, il faut en parler ?
Il faut en parler, ne serait-ce que parce que si l'on analyse le fameux millefeuille français, ce millefeuille administratif, l'échelon régional est absolument essentiel. Et personne ne semble avoir conscience que, par exemple, la question des transports, qui est une question qui a un impact dans la vie quotidienne des gens, un impact majeur, se discute à l'échelon régional. C'est-à-dire que là, actuellement, la SNCF va perdre son monopole sur certaines lignes, doit renégocier sa présence sur des lignes de transport. Et tout cela se fait avec les régions. Il y a donc un impact énorme de ces élections régionales sur la vie quotidienne des gens. C'est pour ça qu'il est d'autant plus dramatique, en effet, que le coronavirus bloque toute campagne, mais aussi que nous soyons dans un système institutionnel qui fait que les régionales sont gommées, effacées. Certes, certains barons locaux ont réussi à s'imposer, mais uniquement quand ils ont d'ailleurs des ambitions présidentielles. Là, Frédéric Dabi de l'IFOP me disait que habituellement à ce stade, avant des élections régionales, l'intérêt des gens s'élève à 20%. 20% des Français se disent intéressés. Là, actuellement, pour ces élections-ci, c'est 14%.
Donc, 14%
en effet,
seulement.
Hélas, tout le monde s'en fiche et c'est très inquiétant pour l'état de notre démocratie et la capacité de la France à déconcentrer et décentraliser le pouvoir.
Et c'est la raison pour laquelle, Natacha, vous vouliez donc absolument en parler. Gilles, vous êtes heureux de voter ?
Toujours. Jean Castex disait qu'il prenait acte de la volonté majoritaire de l'Assemblée nationale. Le fait qu'il y ait eu une incertitude sur la tenue de ces élections, en soi, est une étrangeté. D'un point de vue sanitaire, il peut y avoir un problème pour la campagne, dans la mesure où il va être difficile de faire des rassemblements physiques et où l'attention des Français n'est pas prioritairement là-dessus.
Mais l'argument avancé, c'est gagner une semaine de vaccination, 2 millions de personnes en plus qui seraient protégées contre le virus.
Fort bien. Mais il n'y a pas de problème pour le vote lui-même. Il y a eu un problème pour la campagne, mais il n'y a pas de problème pour le vote. On a voté dans de nombreux autres pays. On a voté, on l'a oublié, au deuxième tour des élections municipales le 28 juin dernier, sans aucune difficulté. Et il y aura sans doute aux alentours de 30 millions de Français qui seront vaccinés à la fin du mois de juin. Donc, le problème n'était pas un problème.
30 millions de Français vaccinés en juin, et combien de personnes, a priori, qui iraient voter sur un corps électoral de 46 millions de personnes ?
Écoutez, quand on regarde l'évolution de la participation aux élections régionales, ce sont des élections récentes, hein, puisque ça a moins de 40 ans. Lors des premières élections en 1986, l'abstention, c'était un quart des électeurs. En 2000, au début des années 2000, on est passé à un tiers. Et en 2010, on est passé à la moitié d'abstention. Alors, ça a un peu baissé aux dernières élections. Il y a en plus le cumul avec les élections départementales, mais d'un autre côté, il y a la situation sanitaire. Donc, on ne sait pas, mais il n'y aura pas beaucoup plus d'électeurs que ça. Donc, d'un point de vue sanitaire, il n'y a pas de problème. D'un point de vue politique, l'ensemble des oppositions réunies pour une fois souhaitaient ce vote. D'un point de vue démocratique, il n'y a pas de débat. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que l'intérêt de la majorité était également qu'on vote, et qu'on vote dès le mois de juin, parce que il faut pas être grand clair pour comprendre que ces élections ne vont pas être un succès triomphal pour La République En Marche, et donc vaut mieux encaisser ça avant les vacances et repartir lors de la pré-campagne, une fois que ça
est
derrière. Donc, ces élections se tiennent, c'est très bien. Natacha a raison de dire que l'enjeu, il est important en raison des compétences des régions. Ce sont des institutions qui sont encore à l'adolescence. 40 ans, je l'ai dit, premier vote au suffrage universel direct. Les régions regroupées moins de 10 ans. Et ce sont, et je termine juste par là, des institutions dont le pouvoir se défie, dont le pouvoir central se défie. C'était vrai avant, c'est vrai davantage encore avec Emmanuel Macron. On a renié leur pouvoir sur la formation professionnelle. Et dans le discours dont on parlait la semaine dernière devant les hauts fonctionnaires...
Discours du président de la République...
Emmanuel Macron disait il y a deux institutions qui sont des institutions structurantes, le département et les bassins de vie. Avant, on disait, c'est les régions et ce sont les communes. Et donc, ce sont des régions qui ont encore, des institutions qui ont encore à s'ancrer dans le paysage.
Natacha Polony.
Oui, je l'ai déjà dit à ce micro, mais je le répète, pour que les régions s'ancrent dans le paysage, il eût fallu ne pas mettre en place une réforme territoriale absolument calamiteuse, qui justement a détaché les régions de toute réalité territoriale. C'est-à-dire que l'échelon de la commune est en train d'être vidé de sa force démocratique par les communautés de communes, qui sont une aberration en termes démocratiques et qui fonctionnent mal. Et les régions sont devenues des entités absolument gigantesques dans lesquelles les gens ne se reconnaissent absolument pas parce qu'elles n'ont pas été pensées. Il eût fallu prendre du temps pour cela, réfléchir en termes historiques et géographiques. Elles n'ont pas été pensées en lien avec la réalité des territoires, le mode de vie des gens. Et quand ont été dessinées les premières région, celui qui est l'auteur véritable du découpage avait hésité sur la question de savoir de quel côté il devait rattacher le Gard. Eh bien, qu'a-t-il fait ? Il a regardé Il a demandé à France Télécom, enfin ça ne s'appelait pas France Télécom à l'époque, mais les postes et télécommunications, de quel côté les habitants du Gard téléphonaient-ils ? Est-ce qu'ils téléphonaient davantage du côté de Marseille ou du côté de Montpellier ? Et c'est parce qu'ils téléphonaient davantage du côté de Montpellier que le Gard a été rattaché à la région, parce que c'était l'idée qu'il fallait que ça ait un sens pour les gens. Je pense que ça n'a pas été fait lors de la dernière réforme territoriale. Nous allons le payer longtemps.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Sunday, Bloody Sunday, cette chanson sur le conflit nord-irlandais, elle dit une chose, elle dit « There's many lost, but tell me who has won ». Il y a beaucoup de perdants, mais dis-moi, qui sont les vainqueurs ? Eh bien, plus de 20 ans après ces accords de paix, la question est loin, bien loin d'être réglée.
You Too, Sunday, Bloody Sunday, et un reportage de Claude Guibal, diffusé sur France Inter il y a quelques jours et qui est toujours en ligne et que je vous recommande chaleureusement pour essayer de comprendre les enjeux de ce sujet majeur, à savoir qu'on se demande si la guerre ne serait pas de retour en Irlande. Gilles, des affrontements ont lieu depuis le mois de mars en Irlande du Nord. Il y a des tensions, d'un côté les unionistes, de l'autre les républicains, et le Brexit qui instaure une frontière en pleine mer, en mer d'Irlande, est à l'origine de ces tensions. C'est assez compliqué à comprendre vu d'ici, mais c'est un sujet extrêmement important parce qu'il réveille les démons du passé et ces conflits terribles qui opposaient les protestants et les catholiques, Gilles.
Oui, d'une certaine manière, c'est la chronique d'un drame annoncé ou redouté depuis des mois. Pour préparer notre débat, je me suis replongé dans les mémoires de Tony Blair. On porte à son débit, à raison, la guerre en Irak. On porte assez peu à son crédit la paix en Irlande du Nord. Or, il a joué un rôle absolument déterminant et le chapitre qu'il consacre à la paix en Irlande du Nord est absolument formidable. On voit, on sent, on prend la mesure de l'épaisseur de l'histoire, de la culture, de la politique, de la psychologie dans ce conflit. Et à la lecture notamment des 4 jours ininterrompus de négociations qui ont débouché sur ces accords du Vendredi Saint en 1998 et donc à la paix on mesure le caractère presque miraculeux et extraordinairement fragile de cet édifice qui est comme un château de cartes. Or, ce château a commencé à vaciller avec le Brexit,
oui.
Puisque, il ne faut pas l'oublier, les Irlandais du Nord ont voté majoritairement contre le Brexit. Et dans les négociations post-Brexit, puisque on a dû négocier ce qu'on appelle un protocole nord-irlandais, c'est-à-dire une situation spécifique. Et ce château, aujourd'hui, c'est lui qui menace de s'écrouler, et ce que l'on paye, c'est à la fois la désinvolture de Boris Johnson, vous vous souvenez de ses déclarations, il faudra me passer sur le corps pour qu'il y ait la frontière que vous avez évoquée en mer d'Irlande, entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni, et puis sa rigidité sur le fond, parce que dès lors que le Royaume-Uni, non seulement quitte l'Union européenne, mais quitte l'union douanière.
Oui.
Ça veut dire qu'il doit y avoir une frontière entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. La question est de savoir où passe cette frontière. Et c'est là qu'on est dans un dilemme qui est inextricable. Soit la frontière passe entre, ce qui serait logique, entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, mais à ce moment-là, eh bien, on a un problème avec les nationalistes et un problème avec tout simplement le processus de paix qu'on vient d'évoquer, soit
et
elle passe
la construction d'une frontière terrestre également.
Soit elle passe, ce qui est le cas en mer du Nord, entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni auquel elle est rattachée. Et là, on a un problème avec les loyalistes, avec les unionistes. Et c'est eux, aujourd'hui, qui ont ce sentiment de trahison. D'autant plus que, il faut prendre ça en compte, ils sont aujourd'hui en perte de vitesse. Ils ont perdu la majorité absolue au Parlement nord-irlandais il y a quelques années. Et il y a aujourd'hui plus de députés nationalistes que de députés unionistes. Et donc, tout ça explique ce cocktail. Mais on reviendra peut-être, tout espoir n'est pas perdu.
Natacha Polony.
Oui, en effet, je pense que si on voulait le dire en termes un tout petit peu provocateurs, on dirait que nous avons sous les yeux les risques que pose un processus post-colonial non abouti. Puisqu'en fait, le problème vient de la fin de la colonisation britannique sur l'Irlande, qui a laissé ce petit bout d'Irlande où se mêlent des populations qui n'ont pas les mêmes convictions ni la même religion. Et on voit à quel point, Gilles vient de très bien de le montrer, la situation est inextricable puisque les uns et les autres sur un même territoire se sentent rattachés à deux pôles différents et qu'il ne faut surtout pas créer une frontière d'un côté ou de l'autre, sinon tout bascule. S'y ajoutent en fait des questions sociales, c'est-à-dire des questions de pauvreté, de relégation de la part, enfin dans les quartiers qui sont les quartiers unionistes, et donc chaque symbole devient potentiellement violent, que ce soit dernièrement la lutte contre un trafic de drogue qui était orchestré par un groupuscule unioniste radical, que ce soit un jugement, on va dire, très généreux vis-à-vis d'élus du Sinn Féin qui avaient enfreint
le grand parti indépendantiste nord-irlandais.
Voilà, tout acte devient un acte potentiellement dangereux. Il va falloir retricoter ce qui avait été mis en place avec les accords du Vendredi Saint. Dire que le Brexit est coupable, oui, mais d'abord, le fait que les Irlandais du Nord aient voté contre le Brexit ne change pas grand-chose. Ils auraient voté pour, le problème aurait été à peu près le même.
Les loyalistes, eux, ont voté majoritairement pour le Brexit, mais effectivement, il y a cette question qui se pose aujourd'hui, celle de savoir comment redéfinir les frontières de l'Europe, et particulièrement dans un territoire où il y a des étincelles qui peuvent embraser l'ensemble de la situation. En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur ce point. On aura l'occasion évidemment d'y revenir dans le grand face-à-face. Il est midi et demi, tout de suite le débat avec Mathieu Bock-Côté.